Idée. Une émission proposée par Benoît Ruel. Première partie.
Bonjour ou bonsoir. Alors que depuis le XVIIe siècle, la modernité politique articulait un ordre territorial, un principe de souveraineté et un système de régulation internationale des conflits, ce modèle est entré récemment en crise sous le choc de la globalisation et de la privatisation du monde. L'espace public rétrécit à vue d'œil sous la poussée des appétits privés, la citoyenneté dépérit sous le règne anonyme des marchés financiers, le droit est mis à mal par la logique de la guerre globale sans limites ni frontières, les peuples se décomposent en meutes, les classes en masse, quant aux partis, ils capitulent devant le despotisme et le tribunal des experts. Bref, Félix Guattari avait bien raison d'annoncer au seuil des années 1980 l'avènement d'un nouveau régime planétaire d'accumulation du capital, un capitalisme mondial intégré. La société mondiale, disait-il, devient flasque, sans contour, sans ressort. Reste une question, la question peut-être, comment penser l'avenir quand la politique s'efface devant les décrets d'une économie automate? Comment penser l'avenir quand la cote des idoles et des dieux est à la hausse, le sacré revenant en force? Le 3 décembre 2004, à l'université de Bergen, quand Julia Kristeva reçut le prestigieux prix Holdberg, elle prononça un discours intitulé « Thinking about liberty in dark times », c'est la liberté en temps de détresse. Daniel Ben Saïd, lui, en ces temps obscurs, nous invite à penser l'avenir d'une politique profane. Daniel Ben Saïd, bonsoir.
Bonsoir.
Philosophe, théoricien du mouvement trotskiste en France, maître de conférences à l'université de Paris 8, vous avez beaucoup publié. On mentionnera notamment Marx, l'intempestif, la discordance des temps, ou qui est juge pour en finir avec le tribunal de l'histoire. Et aujourd'hui, vous nous rendez à nouveau visite et je vous en remercie pour dissiper, vous citez ce mot de Félix Guattari en exergue, pour dissiper les brumes de déjà-vu. Comme si tout concourait aujourd'hui à remettre la question politique au premier plan et à relancer la controverse stratégique, changer le monde sans prendre le pouvoir, point d'interrogation, ou bien prendre le pouvoir pour changer le monde, mais comment s'y prendre dans les conditions du capitalisme global et comment éviter la gangrène bureaucratique qui a ruiné, on le sait, de l'intérieur les tentatives d'émancipation passées. Alors on l'a compris, les questions auxquelles vous tentez de répondre ne sont pas minces, mais avant d'écouter vos analyses, Daniel Ben Saïd, une question liminaire, car nos auditeurs ont le droit de savoir d'où vous parlez. Est-ce que vous êtes toujours marxiste?
Si je voulais répondre brièvement, oui. Maintenant, le terme de marxiste, comme épithète, a servi à tellement de choses différentes qu'il est devenu d'un usage problématique, mais disons que pour moi, sinon le marxisme qu'il faudrait définir, du moins la théorie de Marx, sa matrice théorique, et encore le point de départ, non pas le point d'arrivée, mais pour comprendre et pour combattre le monde contemporain. Disons que l'actualité de Marx, c'est celle de son autre ou de son contraire, c'est-à-dire le capital qui n'était qu'embryonnaire à l'époque, essentiellement en Europe, aux États-Unis, qui est devenu effectivement aujourd'hui un phénomène global et planétaire.
Alors je vous pose cette question, notamment parce qu'on s'attendrait à voir ce livre placé sous le signe de Marx. Le premier chapitre l'est effectivement, quand vous rappelez cette phrase, « Nous ne transformons pas les questions profanes en questions théologiques, nous transformons les questions théologiques en questions profanes. » Mais hormis cet exergue, Daniel Ben Saïd, vous citez plus volontiers le chrétien Peggy, le psychanalyste Guattari ou le déconstructionniste Derrida.
Oui, mais ça ne me paraît pas du tout incompatible. Peggy, qui s'est converti en 1907, a d'abord été formé à l'école d'un socialisme internationaliste français et avec une culture germanique qui était rare à l'époque. Derrida a écrit en 1993 « Les spectres de Marx », qui marque, de mon point de vue d'ailleurs, la sortie du tunnel théorique, hein, après les horribles années 80, et Guattari lui-même est issu du mouvement trotskiste. Donc tous ces gens-là vivent dans une culture marxiste.
Donc Marx n'est pas définitivement ringardisé, disons.
Non, bien au contraire. Bon, Jacques Attali a publié un livre il y a 2 ans où Braudel disait que finalement on pense dans les termes de Marx l'époque contemporaine. Il n'est pas ringardisé, mais au contraire, finalement l'effondrement de l'Union soviétique a plutôt libéré Marx et son héritage des orthodoxies qui le tenaient captif et a permis que fleurisse ce que j'appelle mille et un marxisme.
Alors Daniel Ben Saïd, on a évoqué à l'envi la fin de l'histoire, mais est-ce l'histoire elle-même qui marque l'arrêt ou bien celui qui l'observe?
Ah. Non, l'arrêt de l'histoire est difficilement imaginable. On vit dans une histoire ouverte. Il y a plutôt un sentiment, effectivement, d'immobilisation, de rétraction de la temporalité sur un présent immédiat, sans projection possible sur l'avenir. C'est pas un phénomène nouveau. Il avait été anticipé, par exemple, dans la Société du spectacle par Guy Debord, dans l'analyse de la société de consommation par Baudrillard. Cette idée que l'immédiateté de la consommation, finalement, réduisait la capacité à anticiper, à penser en termes de projet. Et je crois que c'est bien là, d'ailleurs, un des sujets centraux du livre, c'est que l'affaiblissement de la pensée historique hypothèque également la capacité de l'action politique. On peut difficilement penser l'une sans l'autre. C'est-à-dire que la politique, comme volonté de choisir l'humanité, la société que nous voulons devenir, est indissociable d'une certaine capacité à penser l'histoire.
Vous, ce que vous rappelez d'emblée, c'est que jusqu'à maintenant, alors, si on veut prendre des dates, on pourra parler de 89, la chute du mur de Berlin, ou en 2001, le 11 septembre, mais au fond, c'est ici assez secondaire. Ce que vous rappelez, c'est que par-delà les bouleversements, subsistait un référent conceptuel relativement cohérent des luttes politiques, dites-vous. Or, manifestement, selon vous, ça n'existe plus.
Je nuancerai, je dis c'est ébranlé, c'est bousculé, mais ce qui me frappe, c'est que nous pensons la politique dans tout un corpus de catégories et de concepts qui se sont petit à petit emboîtés les uns aux autres ou les unes aux autres à partir du XVIIe siècle. Les notions de souveraineté, de citoyenneté, de territoire, de frontières, de nation, de peuple, y compris de droit international et de guerre interétatique. Donc il y a là un horizon politique qu'on peut par commodité appeler la modernité, qui commence avec les révolutions anglaises du XVIIe siècle, d'ailleurs, et la philosophie de Hobbes, mais qui est resté notre horizon de pensée politique. Or, toutes ces catégories sont malades. Je ne dis pas qu'elles sont mortes, justement. C'est ce qui me différencie, par exemple, d'un auteur comme Tony Negri, qui considère que les idées de peuple ou de nation sont non seulement obsolètes, mais deviennent de fait réactionnaires, mais elles ont du mal à se redéfinir. Qu'est-ce que la citoyenneté à l'époque de la mondialisation, des grandes migrations qui redéfinissent le rapport entre le national et l'étranger? Qu'est-ce que la souveraineté par rapport à l'ouverture des marchés, au grand flux de circulation des marchandises ou des capitaux? Donc toutes ces notions deviennent problématiques. Pour autant, elles ne sont pas caduques. Donc on est exactement dans cet entre-deux, entre ce qui tarde à mourir et ce qui pointe à peine. Et cet entre-deux est justement propice, c'est le propos ou un des propos du livre, à cet état d'exception qui est une manière de faire face justement à une période de transition.
Vous citez cet invite de Jacques Derrida, si nous voulons sauver la révolution, et vous présentez quand même comme les gens de la Ligue comme des révolutionnaires, si nous voulons sauver la révolution comme ce qui vient déranger l'ordre du temps, il faudra transformer l'idée même de révolution. Ça veut dire quoi ? Où va-t-on mettre le curseur aujourd'hui ? Vous ne croyez plus au grand soir ?
Y a-t-on jamais cru le grand soir, c'est la représentation imagée et mythologisée de la révolution. Il y aurait une télévision sur les talons des manifestants qui allaient chercher le roi à Versailles et la boulangère et le petit mitron. On aurait une vision beaucoup plus triviale et beaucoup moins héroïsée que n'en ont donné les vignettes d'Épinal et les récits, etc. Il y a une évolution de l'imaginaire. Et l'idée de révolution, avec un R majuscule, hein, il y a une différence majeure entre l'époque, je crois que c'était 1797, où Chateaubriand écrivait son essai sur les révolutions au pluriel, et avec une minuscule, donc comme des bouleversements, et puis l'essai de Hannah Arendt sur la révolution, qui elle est une catégorie moderne, qui fait système avec le sentiment d'accélération de l'histoire, avec l'idée du progrès, etc. Or, si les autres catégories sont aujourd'hui problématiques, celle de révolution l'est aussi. Il ne s'agit pas de l'abandonner de mon point de vue, vous venez de le rappeler, mais de savoir ce qu'on entend par là.
Justement, Daniel Ben Saïd, Derrida dit il faut déranger au fond l'ordre du temps. La révolution, c'est ce qui vient déranger l'ordre du temps. On a encore la possibilité de déranger l'ordre du temps, et puis il faudrait peut-être aussi se demander, déranger l'ordre du temps, mais aussi peut-être l'ordre de l'espace. On a la possibilité aujourd'hui de déranger l'ordre de l'espace en un temps où la mondialisation est là, en un temps où finalement la fonction frontalière ne disparaît pas, mais se transforme. Ce sont des catégories encore recevables, pensables.
L'espace, c'est une production sociale. Il se trouve que en France, Henri Lefebvre, qui a été mon bon maître, à qui je voue encore une affection durable, a été un des premiers à se pencher sur cette question de l'espace et de la production sociale de l'espace. Aujourd'hui, il a fait école, paradoxalement, beaucoup plus dans le monde anglo-saxon, avec des auteurs, je crois, quasi inconnus en France, comme David Harvey, qui pense la production sociale de l'espace. Donc, déranger l'ordre de l'espace, à sa manière, le capital ne cesse de remodeler et de reconstruire les espaces de la politique et les espaces sociaux. Le problème est de savoir, justement, si nous sommes capables de définir les propres espaces politiques de l'émancipation. Et là, c'est un vrai défi à la politique aujourd'hui. Disons qu'on a toujours vécu dans une pluralité spatiale. On a toujours été du village ou de la ville, de la région, de la nation, du monde, dans une certaine mesure. Mais l'espace national était de loin prédominant. C'est celui-là qui structurait les rapports de force, les enjeux stratégiques, les luttes de pouvoir. Bon, aujourd'hui, l'affaire est plus compliquée. À la différence de Negri encore, je ne pense pas que l'espace national soit périmé. On voit bien quant au Venezuela, il est question de reconquérir la souveraineté sur les ressources énergétiques, ou en Bolivie sur les ressources alimentaires. Mais les espaces aujourd'hui sont tellement imbriqués qu'il est possible qu'une des dimensions demeure la dimension nationale, mais elle est de plus en plus étroitement liée à des perspectives, à des projets au moins continentaux. C'est, par exemple, l'opposition pour l'Amérique latine de l'alternative bolivarienne au grand marché des Amériques. Bon, c'est le débat sur l'Europe et quelle Europe pour ce qui nous concerne.
Je vous cite Daniel Ben Saïd, « Pour les dominer, il est temps de tirer les leçons des expériences et des défaites du siècle passé, de relancer les clés de la raison stratégique et, comme le disait Deleuze, de recommencer par le milieu. » Ça veut dire quoi, recommencer par le milieu ?
Ça veut dire que on repart jamais à zéro, qu'il n'y a pas de mythe pour moi de la table rase, et que on fait toujours du nouveau avec une partie du vieux, disons. Et recommencer par le milieu, ça veut dire aujourd'hui qu'il serait illusoire de penser qu'on va écrire sur une page blanche. Certainement que les événements de la fin du XXe siècle, vous avez cité la chute du mur de Berlin, bon, quelque chose s'est achevé à la fin du XXe siècle autour de ces événements, mais quoi ? Alors certains historiens répondent le court XXe siècle, qui avait commencé avec la Première Guerre mondiale et la Révolution russe. Mon hypothèse est que c'est peut-être aussi l'essoufflement de toute une époque et celle de la modernité, justement, commencée au XVIIe siècle. Mais peut-être qu'un nouveau chapitre s'ouvre, mais il n'efface pas les précédents et on n'a pas changé de livre. C'est-à-dire que pour aborder cette nouveauté, cet inconnu des nouveaux chapitres, il faut ne pas effacer ou ne pas oublier encore une fois, les leçons, en particulier celles du XXe siècle, c'est-à-dire tout un bagage historique qui fait qu'on recommence par le milieu. Il n'y a pas un point zéro, un retour, un départ aux origines, une remontée aux sources ou aux racines, qui est un des thèmes particulièrement inquiétants aujourd'hui, justement.
Vous consacrez de nombreuses pages à la transformation du concept même de guerre, avec par exemple la transformation des guerres d'État en guerre totale, puis depuis 2001 en guerre globale associée à un état d'exception planétaire permanent, notamment contre le terrorisme. Et vous dites, il ne s'agit plus de libérer un peuple ou un territoire, mais de servir le bien absolu. Bon, j'entends bien, vous dites de servir le bien et vous ajoutez absolu, mais tout de même, Daniel Ben Saïd, est-ce que vous n'oubliez pas un peu vite les centaines de milliers de Kurdes gazés par Saddam Hussein, qui eux vivaient dans le mal absolu ?
D'autant moins que, à l'époque où la France et les États-Unis livraient des armes à Saddam Hussein pour sa guerre contre l'Iran, moi je manifestais en défense des Kurdes, donc je l'oublie pas du tout. Mais ce qui est inquiétant dans cette rhétorique de la guerre globale, c'est qu'on y retourne à la rhétorique de croisade et de guerre sainte, et on en vérifie les effets, c'est-à-dire quand on prétend faire une guerre non pas au nom de guerre d'intérêt, ou d'intérêts territoriaux, ou d'intérêts économiques, mais au nom d'une morale absolue, et c'est le cas, j'ai pas appris les mots par hasard, c'est très exactement le discours de George Bush une semaine après les attentats du 11 septembre, dans lesquels il annonçait cette guerre illimitée. Évidemment, dès lors qu'on considère l'ennemi comme l'incarnation du mal majuscule ou du mal absolu, on le considère comme exclu de l'humanité, mis au ban de l'humanité, donc comme ramené au rang de l'animalité. C'est ce qui se passe très pratiquement à Guantanamo, à Abu Ghraib, qui de mon point de vue sont pas des bavures, ou encore avec la réhabilitation du principe de la torture comme possible et légitime. Il y a de longues pages en citant les sources, les rapports du Pentagone là-dessus, etc. Mais qui sont quelque chose, à mon sens, d'effrayant. Non que les guerres anciennes aient été jolies, mais on est là dans une escalade aux extrêmes, finalement, et qui oppose une certaine conception religieuse du conflit à sa conception politique, d'où d'ailleurs le titre. Il y a un basculement théologique de la guerre, y compris, pour prendre l'exemple très concret, dans le conflit israélo-palestinien, qui est un conflit politique, de droits nationaux, de territoires, mais qui est devenu un conflit aujourd'hui confessionnel. Le sionisme, on pouvait être contre, c'était mon cas, mais c'était un sionisme politique. Aujourd'hui, un sionisme religieux.
Daniel Ben Saïd, Anna Arendt s'inquiétait de ce que la politique vienne à disparaître complètement du monde. Est-ce ce à quoi nous assistons ?
C'est ce que l'on peut redouter. Maintenant, l'affaire est heureusement pas jouée, et c'est ce à quoi il faut résister, mais cette crainte d'Anna Arendt, en fait, montre à quel point elle a été mal lue. On a réduit Anna Arendt à une pensée du totalitarisme sous la forme du totalitarisme, absorption de la société par l'État bureaucratique, dans le cas de l'Union soviétique ou par le nazisme, mais elle envisageait bien d'autres formes de dépérissement de la politique, sous l'automatisme marchand en particulier. Et l'enjeu est là. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe une possibilité pour une politique qui ne soit pas reconduite à ses sources religieuses ?
Eh bien, Daniel Ben Saïd, nous allons faire place au journal, mais bien sûr, vous restez avec nous. Et puis, dans une dizaine de minutes, eh bien, vous venez de poser une question. Vous allez continuer à nous apporter des éléments de réponse. Je répète que vous faites l'éloge de la politique profane. C'est le titre, en tous les cas, de l'essai que vous venez de faire paraître chez Albin Michel. Alors, cela étant, je signale à nos auditeurs, nous allons d'ailleurs sans doute en parler dans la seconde partie de ce numéro d'idées, que vous venez également de publier aux nouvelles éditions Ligne, un livre, on pourra dire, de circonstances, un pamphlet, un nouveau théologien, Bernard-Henri Lévy. Il s'agit d'une réponse au dernier livre de VHL intitulé « Ce grand cadavre à la renverse », avec une réfutation point par point des péchés capitaux que VHL impute à la gauche radicale. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, eh bien, vous nous écrivez. Notre adresse est toujours la même, idée@rfi.fr. Et puis, si vous souhaitez un enregistrement, n'oubliez pas, car c'est souvent le cas, je le répète, de mentionner votre adresse postale avec la plus grande précision. Ce numéro d'idée est mis en onde par Cyril Etienne et réalisé par Patricia Lecomte. Restez à l'écoute, on se retrouve immédiatement après les dernières informations.